Comment vivre cette mission que Dieu nous assigne? Il a déjà eu l'occasion dans la journée d'hier de nous interpeller en nous parlant, en nous partageant sa foi dans le cadre d'une action sociale. Et nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau lui donner la parole ce matin. J'aimerais inviter Jean-Michel Rey à venir me rejoindre. Jean-Michel est directeur de l'association Projet à Nyon. C'est un entrepreneur pas comme les autres, vous aurez certainement l'occasion de vous en rendre compte. J'aimerais encore prier pour ce temps, nous voulons nous remettre devant la parole de Dieu. Nous nous réjouissons de ta présence, Seigneur. Il était bon de pouvoir te louer, toi qui es la lumière du monde. Nous voulons te demander, Seigneur, maintenant des cœurs humbles et bien disposés à écouter ta parole, à être interpellé par ce que tu as à nous dire ce matin au travers de ton serviteur Jean-Michel. Nous le bénissons en ton nom et nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Michel.
Bonjour à chacun. Je me suis beaucoup réjoui pour ce jour. J'ai beaucoup tremblé aussi. Je trouve absolument inouï comment Dieu, dans la journée de hier, ce matin, dans la louange, a préparé le programme de cette journée. Et je tremble d'avoir vu, découvert, ressenti ce qu'il voulait nous dire aujourd'hui. Je vous invite à vous accrocher. Il y a 26 ans, Dieu m'a envoyé au Mali. Je ne suis pas allé. Je lui ai expliqué pourquoi. Je ne voulais pas y aller, il m'a démonté tous mes arguments, et le jour où je lui ai dit « d'accord, j'y vais », il m'a envoyé en mission ailleurs, à Saint-Sergue. Et je n'ai pas été un très très bon missionnaire. Mais cet été, je fête 25 ans d'école missionnaire à Saint-Sergue, où Dieu m'a envoyé auprès d'un peuple curieux, le peuple de Dieu, avec sur mon cœur une envie d'évangéliser le peuple de Dieu. Curieux ça, hein? Partager le message de l'Évangile avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et le peuple de Dieu, c'est une nation aussi, qui ne doit pas rester chrétienne, qui doit devenir un peuple de disciples. Alors j'ai eu le plaisir de vous dire, voilà, je m'appelle Jean-Michel Rey, je suis disciple de Jésus-Christ. Et bien, oh, il est prétentieux celui-là. Ça a été un drame dans ma vie de vouloir devenir un disciple, jusqu'à que je lise dans le dictionnaire qu'un disciple c'était un apprenti. Alors j'ai l'honneur de vous dire que je suis un apprenti du Seigneur, pas toujours très bon, un peu fatigant pour mon patron, et je vais apprendre toute ma vie. Et cette année, j'ai changé d'école, je suis entré dans une classe supérieure, je croyais que je connaissais déjà les cours, et puis j'ai découvert que c'était difficile. Et il y a 6 mois, quand on m'a invité à parler aujourd'hui, 2 jours après le message d'aujourd'hui, je l'avais sur mon cœur, mais j'ai dû passer 6 mois à l'éprouver, à le vivre. Et je peux vous dire, il y a des gens dans la salle qui me connaissent, ça fait 6 mois que je me fais éplucher. J'ai jamais vécu un temps aussi difficile. Mais j'ai envie de passer devant, pour autant que je puisse passer devant. Parce que dans la salle des gens qui se sont fait éplucher, il y en a beaucoup. Nous sommes invités par notre Seigneur à changer fondamentalement. Nous sommes entrés dans une période de chaos C'est un chaos organisé. On est entré dans une période de déstructuration volontaire de la société qui est orchestrée. On va entrer dans une période de famine. Est-ce que nous saurons mettre dans des greniers la nourriture qui nous est donnée aujourd'hui pour la partager demain? Il y a deux images qui me viennent quand je pense aux chrétiens d'aujourd'hui, dont je fais partie, hein, je ne me mets pas en dehors de ce que je vous dis. Il y a des chrétiens qui courent après les fast-food chrétiens, une espèce de grand McDo du christianisme. Et il y en a d'autres qui sont à la recherche de la gastronomie chrétienne. On fait venir des grands chefs de la gastronomie spirituelle et on nous sert des excellents repas, un peu partout. Partez à ces séminaires avec des doggy bags. Prenez tous les restes, mettez-les de côté et partagez avec le peuple qui a faim. Un texte fondateur pour moi, c'est le texte de Matthieu 25, que je vais quand même me permettre de vous lire. Il est terrible ce texte. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Après, il y a cet échange, mais quand c'est qu'on a fait ça? Et puis le Seigneur qui répond, « Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et, qu'est-ce que c'est plus loin? Non, il a déjà dit avant. J'ose même imaginer que dans ces gens qu'il va mettre de côté avec les brebis, il y aura peut-être même des gens qui n'étaient pas chrétiens. Pourquoi pas? Finalement, il fait ce qu'il veut. Hein. Si c'est un des critères de sélection, d'avoir donné à manger à celui qui avait faim. Les chrétiens n'ont pas ce monopole. Dans le texte d'Ésaïe 58, il sort ses grands classiques, celui-là. Ésaïe 58, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. » Après il y a un échange sur le jeûne. Et Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore. » Ça, c'est les conséquences. Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. C'est Dieu qui dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, ce qui est marqué là, c'est pas très compliqué. Mais ça demande un sérieux engagement. Dans Jacques, pour pas qu'on me dise que je cherche que des trucs dans l'Ancien Testament, dans Jacques 1:27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Toutes ces occasions d'après Matthieu 25, c'est des occasions de rencontrer Jésus. Dans le titre un peu provocant du week-end, les églises locales, visage de Jésus, on peut se demander si le monde a l'occasion de rencontrer Jésus en rencontrant l'église ou les membres de l'église. Est-ce qu'on est une bonne, une vraie représentation de Jésus? Norbert a cité hier le texte, « Vous êtes une lettre de Christ ». Il me dit, tiens, Paul serait là aujourd'hui, il dirait, « Vous êtes un SMS, serviteur messager du Seigneur. » Si quand quelqu'un vous rencontre, il peut dire, « J'ai reçu un SMS de Jésus. » Ça ferait quoi? Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes, on fonctionne énormément par SMS, et il y en a qui s'en envoient des dizaines par jour. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez reçu un abonnement dans la ligne céleste où vous avez des milliers d'SMS gratuits que vous pouvez dispenser autour de vous pour autant que vous en preniez le temps. Est-ce que les gens qui vous rencontrent reçoivent un SMS du Seigneur, un serviteur messager du Seigneur? Parfois, le ministère chrétien se résume à faire de l'évangélisation. Il faut convertir les gens. Moi, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'étais chrétien parce que j'avais la trouille. Depuis tout petit, on m'avait dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, tu iras au paradis. Alors, c'était cool, j'avais mon billet, c'était bien, j'ai plus peur de la fin du monde parce que... Après, c'était aussi pas cool parce qu'on croyait que Jésus allait enlever l'église avant que ça soit dur. Enfin, puis ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors j'ai dû redécouvrir pourquoi j'étais attaché à Jésus. Je n'étais pas attaché à Jésus parce que c'était mon assurance anti-peur de la fin du monde. C'est important d'être attaché à Jésus parce qu'on l'aime. Et si nous, on présente un Jésus avec une évangélisation arde, où on fait peur aux gens, ça va devenir des chrétiens craintifs. Quand on fabrique un chrétien, on prend un énorme risque. C'est de préparer un futur pharisien. Et je préfère hautement savoir quelqu'un dans la misère, dans la marginalité, dans la détresse la plus noire, que d'être un vomi de la bouche de Dieu. Il faut faire attention quand on amène quelqu'un à Christ. C'est une nouvelle naissance, on dit, il est né de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Moi, je me rends compte que j'ai provoqué, certainement par mon attitude, souvent des avortements, en allant voir dans la matrice si le chrétien, il était bien. Puis s'il naissait plus vite que les 9 mois, puis la Bible, elle ne nous dit même pas combien de mois il faut pour faire un chrétien né de nouveau. C'est combien le temps de gestation entre le moment où il y a la petite graine de la rencontre ou un ovule spirituel avec le Saint-Esprit qui provoque un être qui va naître de nouveau. C'est combien le temps de gestation? Eh bien, pendant ce temps où cet être né de nouveau, futur né de nouveau, se prépare, il faut lui fiche la paix. Il faut le laisser grandir, il ne faut pas toujours aller voir comment il va. On peut lui parler gentiment, on peut se réjouir quand il bouge. Il ne faut pas toujours vouloir voir dedans comment ça va. Et puis quand il est né, ce chrétien né de nouveau, c'est un petit enfant. Il ne faut pas attendre de lui qu'il sache tout faire comme nous, qu'on a déjà 20 ans, ou 30, ou 40. Il faut après de la patience avec ce chrétien né de nouveau. Il faut prendre soin de lui, il faut lui donner à manger, il faut lui raconter des histoires, il faut lui tenir compagnie quand il s'endort. Il faut être avec lui tout le temps, petit enfant. Et si on est juste un cocheur, moi j'ai fait ça une fois dans ma Bible, j'ai encore des noms là au début, des gens qui se sont convertis, j'avais noté leurs noms, c'était un trophée, c'était cool, ils étaient signés. Oh là là, Ils sont devenus quoi, ces gens? Comment est-ce que je m'en suis occupé? C'est important d'accompagner ces gens qui ont besoin d'amour, de soins, de nourriture. Ils ont besoin de parents. Il y a des tas de gens qu'on peut rencontrer qui ont besoin de parents, qui ont besoin de frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus dit, prenez soin de ces plus petits de mes frères. C'est vos frères et sœurs. Ils font partie de la famille de Dieu. Il y a de la place pour eux. Il y a de la place pour ceux qu'on a la prétention d'amener au Seigneur et puis qui y arrivent au Seigneur. Est-ce qu'on s'en occupe après? Vous savez combien de temps ça prend de s'occuper de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur? Surtout suivant dans quel terreau il a grandi, où il doit tout apprendre. Dans les années 70, on entendait des témoignages où les gens se convertissaient, on disait qu'ils étaient retournés comme une crêpe. Ah, hier, ils étaient noirs, aujourd'hui, ils sont blancs. Cool. Bien, je peux vous dire, aujourd'hui, les crêpes, elles se retournent mal. La poêle, elle colle. Et puis, c'est pas si flagrant, les retournements de crêpes. Avec ma spatule, j'ai un peu de la peine avec la crêpe. Jusqu'à que je découvre qu'il n'y a pas de spatule pour retourner les crêpes. La Bible, elle dit qu'il y a le Saint-Esprit, épée à double tranchant, qui vient séparer la moelle des os. C'est ça qui fait la différence quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus. Donc attention, dans notre zèle à l'évangélisation, c'est une prise de responsabilité. Il y a un risque élevé de mortalité infantile chez les jeunes convertis. Je vais vous donner un exemple d'une nouvelle façon peut-être d'aborder l'autre que je pratique, surtout que j'ai un engagement aussi dans les institutions subventionnées où on ne doit pas faire du prosélytisme. C'est intéressant de se mettre complètement au service de l'autre. Et il y a un jour où il nous pose la question suivante. Ce n'est pas tout le temps, hein, mais ça arrive souvent. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça pour moi? Parce que moi, j'ai un ami qui l'a fait pour moi. Des fois, il pose une deuxième question, mais pas toujours. C'est qui cet ami? Il s'appelle Jésus. Oh, vous n'êtes pas embarbé avec la religion. Et là, on a une occasion. On découvre que la personne, elle est fâchée avec la religion. On peut lui reparler une deuxième fois de Jésus. On lui dit, moi, j'ai un ami. Il était hyper fâché avec la religion. Il a même tellement été fâché après la religion, et puis il a tellement semé la panique autour de lui à ce sujet, qu'il en est mort. Ah ouais, c'est qui? Ah, c'est Jésus. Oh! Et là, on va découvrir des gens qui vont dire, ce sont moi la religion, ou bien les chrétiens, ou en général, ils disent, oh, moi, Dieu. Et ils sont tout d'un coup fâchés avec Dieu. Puis on apprend pourquoi. Et pourquoi ils sont fâchés avec Dieu? Parce qu'ils ont rencontré des chrétiens. Très souvent, qui ont été des témoins extraordinaires de l'amour de Dieu. J'en ai été le premier. Mais j'ai l'occasion, quand je rencontre ces gens, de dire, ah ouais, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait ça. Ah ben moi, il y a 20 ans, j'ai fait pareil à quelqu'un. Eh ben, je ne le reverrai pas, mais comme vous êtes là, eh ben, j'en profite pour vous demander pardon. Parce que qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise, nous les chrétiens, avec vous? Et je vous demande pardon. Et ça entretient un nouveau dialogue. Et on est aussi amené à être des agents de réconciliation. Et on peut accompagner les gens à dire leur colère à Dieu, leurs incompréhensions. Donc je vais vous donner brièvement 4 exemples. Ah oui, c'est bon. 4 petits exemples d'engagement qu'on peut prendre auprès des autres. Je vais vous lancer 2 défis aussi. Un exemple que j'ai vécu la semaine passée avec un jeune dont on s'occupe, qui habite dans notre hôtel à Saint-Sergue. Et dans un échange que j'avais eu avec lui, il était particulièrement découragé. Et ce qu'il décourageait, ce moment-là, parce qu'il a de quoi être découragé, c'était ses dettes. À peu près 20 000 francs de dettes. Et puis, il dit, de toute façon, je m'en arriverai jamais. Je crois qu'il vaut mieux que je meure.
Tu veux juste mourir pour des dettes?
On a juste passé en revue ces dettes. Et puis, il y a trois catégories de dettes. Il y a des dettes parce qu'il y a des assurances maladie qui ne sont pas payées, qui sont payées par les services sociaux. C'est juste des papiers administratifs qui n'ont pas été faits. Donc ça se règle facile. Il y a des dettes de Natel, ça c'est classique, puis des dettes de train, parce qu'ils prennent les omnibus en croyant qu'ils sont gratuits parce qu'il n'y a pas de contrôleur, et des fois il y en a. Et puis, il y avait des dettes d'impôts. Et ce jeune qui n'a jamais gagné sa vie, il devait 5000 francs aux impôts. Et pourquoi on doit 5000 francs aux impôts quand on n'a jamais gagné sa vie? Eh bien parce qu'on ne remplit pas sa déclaration. Parce que quand on reçoit ces papiers, on les jette, on les oublie, on les égare, on les laisse par terre. Enfin, toutes sortes de façons de traiter son courrier. Et puis, tout d'un coup, il se pointe quelqu'un chez vous, avec une petite valise, tout ça. Puis j'ai rencontré la semaine passée ce gars qui le cherchait, puis c'est moi qui l'ai trouvé. Il dit, ben, je viens saisir, monsieur, machin. Je dis, ben, venez saisir, il n'y a rien. Alors, on a discuté, j'ai signé les papiers à sa place, et puis j'ai dit, je vais venir vous voir avec lui. Et on a été aux faillites, là, aux poursuites, on a discuté. Et après, je suis allé aux impôts et j'ai rencontré le préposé aux impôts. Je dis, vous voyez, ce garçon, il vous doit 5000 francs. Mais il n'a jamais gagné sa vie, donc il vous doit 5000 francs parce qu'il est taxé d'office. Et puis voilà, puis vous allez mettre ça aux poursuites, vous allez encore lui envoyer des tas de courriers. Ça finira en procédure de non-lieu, ça sera noté quelque part qu'il vous doit ses sous, puis en plus, il ne vous les doit pas. Alors, ok, c'est un imbécile. Il devrait ouvrir son courrier, c'est vrai, c'est n'importe quoi, c'est pas bien, je te gronde. Mais maintenant, on fait quoi? Et on va tous perdre du temps avec cette histoire. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui n'ai rien à voir dans cette histoire, pour régler ça? Puis le gars, il a vu que j'étais vraiment déterminé. Il m'a dit, écoutez, je crois que le mieux, c'est de déchirer ce papier. Et 5000 balles, disparu. Mais jamais ce jeu n'aurait fait sauter ses 5000 francs. Il serait arrivé, il se serait engueulé, etc. Il y a besoin d'avoir des intercesseurs, des intermédiaires, des porte-paroles, des avocats. Et puis c'est tellement amusant de faire ça. Quand vous faites péter 5000 balles, 10 000 balles de dette, comme ça, flac, avec l'aide du Seigneur aussi, parce qu'il met un coup aussi, pour que le type en face, il soit cool. Et puis, mais quelle satisfaction. Ouais, gommé 10 000 balles de dette. Et puis le jeune, il est là. Oh, comment t'as fait? Puis là, oh, une occasion. Et Jésus, il a payé pour nous. Ils ont un exemple, c'est une parabole. Mais c'est pour de vrai, c'est sur leur compte en banque qui est vide. Une autre chose, un autre exemple. On a acheté un hôtel-restaurant à Saint-Sergue. On est en train de se planter complètement. Enfin, je ne sais pas comment le Seigneur va nous sortir de là. On l'a fermé ce week-end parce qu'il pleut puis parce qu'on n'avait personne pour travailler. Mais on croit qu'on va continuer d'être ouvert pour servir les autres. Et la vision qui était sur mon cœur, c'était d'offrir à l'Église un lieu de service pour les autres. C'est difficile de faire venir les gens dans nos églises pour les servir. Et quand vous avez un restaurant, ils viennent tout seuls. Et les servir. Des coca, des Sprite, des cafés, des crêpes. Et puis tout d'un coup, ces gens, ils ont une question. On peut leur servir autre chose. Et quelqu'un qui priait pour nous a reçu une image l'autre jour en disant, voilà, Dieu me dit que chaque fois que quelqu'un viendra dans ce restaurant, il recevra un cadeau spécial de sa part. Il en coule ce resto. Et dimanche passé, sur la terrasse, il y a une dame qui me disait, écoutez, il faut que je vous pose une question. J'aimerais savoir ce qui se passe ici, parce qu'il y a une atmosphère spéciale. Je dis, je ne sais pas, c'est l'air de la montagne. Et non, mais soyez sérieux, qu'est-ce qu'il y a ici? Si vous voulez que je vous réponde. Ok. Eh bien, il y a des gens qui ont à cœur ici de servir les autres, de vous recevoir dans l'amour du Seigneur. Et Dieu a dit qu'il voulait donner un cadeau spécial à toutes les personnes qui viendraient dans ce restaurant. Voilà ce qu'il y a de spécial. Alors, ce qu'il va vous donner, j'en sais rien, mais c'est spécial. Elle me dit, ah, mais j'ai déjà reçu, vous lui direz. Seigneur, voilà, elle a reçu, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi, ça ne me regarde pas, mais c'est sympa.
L'un des trucs plus sympas que vous pouvez faire, vous pouvez prendre la tutelle d'un jeune. Il y a des tas de jeunes qui n'arrivent plus à gérer leurs affaires. Alors ça, c'est vraiment mortel.
Si vous êtes maso, il faut faire ça. C'est encore plus maso, il faut les prendre loger chez vous. Mais je ne blague pas, hein. Moi, je l'ai fait. J'ai cru que j'allais en mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
Et hier, j'ai lancé une boutade, là, une boutade sérieuse. Mais je la refais aujourd'hui. J'y pensais cette nuit. Si tous les chrétiens de Suisse romande adoptaient, au sens du cœur, au sens de ce que Jésus a sur son cœur, adoptaient un cas social, il n'y en aurait plus. Parce qu'il n'y en a pas plus que de chrétiens. Et après, dans le petit peu de temps qui vous resterait, vous pourriez encore vous occuper de votre voisin. Mais je vous dis ça vraiment sérieusement. Pensez-y. Un seulement. Chacun. Un. Vous pouvez fermer les institutions. Hein. Ça coûte juste votre temps, votre cœur et votre vie. Il fut un temps où les chrétiens mettaient des petits poissons sur leurs voitures. C'est un peu fini, il y a encore quelques résistants, mais... J'ai eu un petit délire l'autre jour en discutant avec quelqu'un. Je vous lance ça, comme ça, je ne sais pas, ça fera peut-être le flop du siècle, c'est pas grave. Lancer une campagne GDHPT. Il y a Samuel Schmitt, là, il a toujours des t-shirts rigolos, on pourrait faire un t-shirt GDHPT. Ça veut dire « j'ai 2 heures pour toi ». Et on pourrait reconnaître les chrétiens à ce t-shirt « J'ai 2 heures pour toi ». Vous rencontrez un type comme ça dans la rue, « J'ai des HPT », ça veut dire que vous pouvez lui demander n'importe quoi, il est à votre disposition pour vous rendre service. Ah, ça serait intéressant. Tous ces gens qui ont des petits soucis, des problèmes de toutes sortes, sortir le chien, faire les commissions, remplir sa feuille d'impôt, plein de choses que vous savez faire, eh bien, ils savent quand ils rencontrent quelqu'un comme ça, ou qu'il a ça sur sa voiture, je sais pas, il peut l'arrêter. Ah, ouais, j'aurais justement besoin de 2 heures, quelqu'un qui fait quelque chose pour moi. Et ça serait une façon de s'engager dans la société assez constructive. Il y a un chant ou un texte biblique qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous vous êtes déjà rendu compte ce que ça va provoquer si c'est Christ qui vit en moi ? Quelqu'un qui a prophétisé sur moi il y a quelques semaines que j'allais vivre une grosse opération cardiaque. Alors j'ai espéré que c'était une image, que le Seigneur allait changer mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'espère que c'est ça. Quand j'ai pris conscience que le Seigneur allait changer mon cœur, j'ai eu très très peur. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais je peux vous dire, ça m'a terrorisé. C'est-à-dire qu'il va prendre le mien, il va mettre un autre, suite qui ? Puis pendant qu'il l'enlève, il n'y en a plus. Je vais certainement mourir. Après, j'ai découvert qu'il voulait me mettre son cœur. Alors, si il me met à la place de mon cœur, le cœur de Jésus, ça va déménager dans ma vie. Parce que les petits délires que je vous fais là, c'est du pipi-tcha. À côté de ce que ça fait... Si dans mon cœur, à la place de mon cœur, il y a le cœur de Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte déjà l'impact que c'était quand Jésus il a fait quelque chose. Alors si là, je ne sais pas, vous êtes 400 avec le cœur de Jésus, quand on voit l'impact planétaire quand il n'y en avait qu'un, dans 2 ans, le réveil mondial, il est terminé, mes amis. Avec 400 qui ont le cœur de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je vais finir par un appel. Excusez-moi, je demande humblement pardon aux organisateurs, j'ai dépassé mon temps. Mais je crois que c'est important. J'ai découvert un texte qui n'était pas écrit dans la Bible avant que je le lise. Je croyais que j'avais tout lu, mais celui-là, je n'ai pas vu. Ésaïe 42. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis.
Vous lirez la suite, parce que c'est trop long. Et après, il dit, « Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. » Je ne sais pas si vous avez de la mémoire, mais tous les chants qu'on a chantés avant, ils parlaient de ça. « Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Qui est sourd, comme mon messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme l'ami de l'Éternel, comme l'ami de Dieu? Qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu publier pour le bonheur d'Israël une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongeant dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Ils ont été dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? J'ai été juste bouleversé quand j'ai lu ce texte. C'est l'ami de l'Éternel qui est sourd et aveugle. C'est moi? Et puis parce que j'ai rien compris, l'Éternel les a livrés au pillage. Je porte une responsabilité dans l'état de la société, dans l'état de l'Église. C'est une catastrophe. Ésaïe 43 dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Jean-Baptiste, quand il était dans la prison, peu avant de mourir, il était tout d'un coup plus très sûr que c'était Jésus. Et il a demandé une vérification et Jésus a fait dire, « Va lui dire que les boiteux marchent et les aveugles voient. » Il faut absolument que l'Église retrouve la vue et l'ouïe. C'est fondamental. Et c'est l'appel que j'avais sur le cœur ce matin et que je vous lance, que je me lance. Qui parmi vous se sent sourd et aveugle? Et je vous demande, si vous vous sentez concerné, de vous lever. Et il y a trois catégories de gens qui vont rester assis. C'est ceux qui n'aiment pas les appels, par principe. C'est ceux qui n'ont pas conscience d'être handicapés. Puis c'est ceux qui sont déjà guéris. Mais ceux qui se sentent handicapés des oreilles, de la vue, du cœur, comme on l'a chanté avant. Vous l'avez déjà chanté, Seigneur. Vous l'avez dit, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Vous avez presque tous chanté, je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu. Et puis vous avez proclamé déjà la guérison, vous avez dit, lumière du monde, tu m'ouvres les yeux. Qui veut guérir ce matin? Levez-vous. J'ai fait un autre truc curieux, j'ai pris mon chauffard avec. C'est un truc Dieu il m'a dit de faire il y a 14 ans, non il y a 16 ans, il m'a dit achète un chauffard. J'ai acheté un chauffard, il m'a dit joue, j'ai pas joué. J'ai dit t'es quand même bœuf, toi t'es plutôt obéi jamais. Hein. Alors j'ai appris à jouer parce que quand je l'ai acheté, j'ai fait comme ça. Et puis c'était pas bien quoi. Alors je sais toujours pas jouer, mais par la grâce de Dieu j'essaye d'obéir. Et pourquoi il faut jouer du chauffard dans la parole de Dieu? C'est pour appeler le peuple, pour appeler le troupeau, mais aussi pour prononcer un jugement de la part de Dieu. Et c'est vraiment important. Alors j'ai demandé à deux pasteurs de venir ici pendant ce temps de prière. Et moi je vais jouer un appel. C'est pas de la magie. C'est un appel pour libérer le Saint-Esprit sur nous.
Seigneur Dieu, je te prie pour ton peuple dont je fais partie. Et je t'en supplie, Seigneur. Tu nous as amenés jusque-là aujourd'hui, dans ta grâce. Tu ne nous as pas jugés, tu ne nous as pas fait de mal. Tu nous as traités avec douceur, même si des fois tu nous as épluchés. Quand tu nous épluches, Seigneur, c'est parce qu'on t'a dit « sanctifie-nous ». À ça, il ne faut pas dire. Parce que tu prends ça très au sérieux. Seigneur notre Dieu, je te demande maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, dans ta grâce et dans ton amour infini, de rendre la vue aux aveugles, de rendre l'ouïe aux sourds, dans le nom de Jésus. Je demande maintenant que tu commences une saison nouvelle pour cette Église, pour ton peuple ici, que ton peuple se lève, qu'ils aient des cœurs transformés, pour que ton cœur, Jésus, puisse prendre la place du nôtre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous demander, avant que vous vous rasseyiez, d'organiser une manifestation. C'est un acte symbolique ou prophétique, c'est selon. C'est un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. S'il est dans votre pouvoir de délivrer quelqu'un de captif, faites-le. Si c'est dans votre pouvoir de faire sauter 5000 francs de dette, faites-le. Si c'est dans votre pouvoir de donner le lit de votre fils aîné qui s'est marié il y a 2 ans à quelqu'un d'autre, faites-le. Si vous avez 3 à manger, partagez. Si c'est en votre pouvoir de délivrer, délivrez. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est restituer. Sauf si c'est vous qui avez volé. Si vous avez volé à quelqu'un d'autre, vous pouvez donner à un autre. 4 fois. Non, ce n'est pas obligé. Mais restitue. Et face à toutes ces injustices dont on entend parler, dont on est les témoins, plutôt que de se lamenter, chaque fois que vous passez devant une injustice, présentez-vous devant le trône de Dieu et dites-lui, Seigneur éternel, restitue. Et j'aimerais vous lancer un envoi maintenant, puis qu'on le fasse ensemble. On prend 30 secondes. Et on fait juste ce que l'Éternel nous dit là. Il n'y a personne qui le fait, il dit. Allez, 400 personnes qui le font. Puis vous le ferez demain, après-demain, et puis jusqu'à la fin de vos jours. Vous vous harcèlerez le trône de Dieu en disant, restitue Seigneur, s'il te plaît. Ce que ton peuple a perdu, ce que l'ennemi lui a pris, ce que mes fautes ont provoqué. Alors on fait ça, c'est curieux, c'est spécial, on dit au Seigneur, délivre et restitue, c'est juste symbolique, comme ça à la haute voix, c'est une manif. Seigneur Dieu, viens s'il te plaît délivrer les captifs, quels qu'ils soient, et viens restituer. Oh Seigneur, tu vois ce peuple qui est devant moi comme ils sont gentils, c'est pas une manif ça. Dites au Seigneur, on a le droit de lui dire. Restitue! Ouais, plus fort! Qui ça monte jusqu'aux cieux! Restitue, Seigneur, à ton peuple! Restitue à tous ces pauvres! Restitue à tous ceux qu'on croise! Vous devez avoir du culot, les amis! On a le droit de dire à Dieu, restitue! On a le droit de lui dire des tas d'autres choses. Et je conclue. Ésaïe 40, c'est une promesse. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen.